Chapitre 4. Depuis que le curé Jacqueline Gérard lui avait demandé si elle avait un prétendant, la pauvre Rosalie ne pouvait s'empêcher d'observer à la dérobée tous les hommes qui entraient dans le magasin général. Malgré son envie de rencontrer un bon candidat, elle devait admettre que les célibataires attrayants ne couraient pas les rangs du village. « J'suis toujours bien pas pour me fiancer avec Mathias Gagné », martela Rosalie à sa meilleure amie, Ludivine, qui faisait glisser du sable entre ses doigts. Les deux femmes avaient obtenu la permission de leurs parents de délaisser leurs tâches respectives, l'une au magasin et l'autre aux vignaux familiaux, pour quelques heures en cette fin d'après-midi de juillet. Assises sur la plage de galets et de sable où le drame concernant le petit Éloi s'était produit l'année précédente, les bonnes amies discutaient. Si Rosalie souhaitait trouver un amoureux dans les prochains mois, sa copine, une jeune femme corpulente au visage rond comme une lune, avait déjà un cousin lointain dans sa ligne de mire. Toujours de bonne humeur, Ludivine Lagacé savait que bientôt, ce prétendant s'informerait de la possibilité de venir accrocher son fanal à sa porte. Elle écoutait donc d'une oreille attentive les doléances de Rosalie, peu inquiète de son propre sort marital. « Si j'en crois le curé, il est grand temps que je me trouve un mari. Mais comment veux-tu que je fasse ça? Au magasin, je vois tous les hommes du village et il n'y en a pas un qui me fait la cour, je l'aurais remarqué. De toute manière, ils sont soit trop jeunes, soit trop vieux ou mariés. » Rosalie se retint de faire des confidences concernant son attirance pour Freddy Poirier. Si Ludivine s'offusquait, elle pourrait se fâcher et refuser de rester son amie. Alors, la jolie brune tenta d'éviter de songer au visage aux traits poupins du mari de Madeleine. Parfois, quand l'homme venait au commerce, il s'attardait, elle en était certaine, juste pour jaser avec elle. Mais depuis que ses frères lui avaient passé la remarque sur le fait qu'elle accordait trop d'attention à cet homme, Rosalie s'assurait de rester très professionnelle en sa présence. Elle aimait trop observer ses cheveux bruns courts, ses yeux foncés et ses belles mains puissantes, pour risquer que son père refuse qu'elle le serve. Il valait mieux le voir de loin que de ne pas le voir du tout. Pour se changer les idées, elle commença une liste d'amoureux potentiels avec Ludivine. Bon, il y a Hercule et Siméon Poirier, mais ils ont des promises dans le coin de Gaspé, d'après ce que j'ai entendu dire. En tout cas, tous les samedis, je les vois partir en carriole dès le retour de la pêche. J'imagine qu'ils s'en vont veiller là-bas. Le fils du garagiste a 2 ans de plus que moi, mais j'ai été élevée avec lui. J'aurais l'impression de marier mon frère. Exagère pas, Rosalie, rigola Ludivine en tentant de se redresser dignement. Son amie lui tendit la main et l'aida à se remettre debout. Comme sa mère, la châtaine présentait un important surpoids, mais cela ne l'empêchait pas d'être bien attirante. Plusieurs hommes la trouvaient fort intéressante, sachant que Ludivine pourrait mettre au monde un bon nombre d'enfants sans aucune difficulté. Les amis relevèrent leurs jupes pour marcher dans l'eau en continuant à discuter. Rosalie soupira de bien-être en scrutant le large. « Ça fait du bien de relaxer un peu, » s'exclama-t-elle, en étirant le pied pour éclabousser Ludivine. « Hé, là! Tu payes rien pour attendre! » Les copines délaissèrent leur sujet de conversation pour s'amuser à s'arroser pendant quelques minutes. Puis, à bout de souffle, elles retournèrent à leur place sur la plage. Ludivine sortit une pomme de la poche de son vêtement et avec une petite moue de regret, elle avisa « Je m'excuse, j'en ai juste une. Pas grave, tu peux la couper. » Ouais, c'est vrai. » Ludivine pencha la tête pour éviter que l'autre ne s'aperçoive de sa déception de devoir partager. Elle avait le cœur sur la main, mais un peu moins quand la générosité concernait la nourriture. Elle tourna la pomme rouge entre ses paumes en appuyant fortement jusqu'à ce que le fruit se scinde en deux. Gourmande, elle tendit la plus petite part à Rosalie, qui ne s'en rendit pas compte, occupée à regarder un groupe de jeunes enfants assis sur le sable près de leur mère. « C'est quand même bien épouvantable ce qui s'est passé ici l'année dernière. » souffla Rosalie en penchant la tête pour remercier sa compagne. « Tu parles d'Éloi la Violette, hein? »« Ouais. T'imagines-tu à quel point il a dû avoir peur, le pauvre petit? » Ludivine fit la moue en continuant de mastiquer sa bouchée. Son regard triste accrocha celui de Rosalie, qui compléta sa pensée. « Il reste qu'il n'aurait jamais dû être aussi loin dans la mer, non? C'est inexcusable, je trouve. » « Quand même, » marmonna Ludivine, « Madeleine Gérard n'a pas fait exprès. Je sais bien, mais moi, en tout cas, ça m'arriverait jamais une affaire comme ça, » assura Rosalie. « Des enfants, on surveille ça tout le temps. » Ludivine ne savait pas quoi répondre. Le drame avait secoué leur petite communauté l'année précédente, et chaque fois qu'elle croisait une des jumelles au village, elle préférait s'éclipser sans leur parler. Elle se sentait bien mal à l'aise en leur présence et remerciait le ciel de n'avoir jamais été très proche de cette famille-là. Quand elle se retrouvait à la grave, Ludivine était bien trop occupée pour prendre le temps d'épier Simone et Madeleine. Les vignobles de sa famille se situaient juste avant ceux de la compagnie Robin, assez loin des installations des jumelles Gérard. Même son mari comprend pas trop ce qui s'est passé ce jour-là. Avança Rosalie, en glissant ses orteils sous le sable. Le mari de qui? Les yeux pâles de Ludivine se tournèrent vers Rosalie, qui s'en voulut aussitôt d'avoir trop parlé. Mais comme elle était contente de pouvoir discourir sur Freddy sans que l'autre s'aperçoive de l'intérêt qu'elle lui portait, elle poursuivit en modifiant un peu la vérité. « Je parle de Freddy Poirier. Il comprend pas que sa femme se soit endormie ce jour-là », murmura-t-elle sur un ton de connivence. « Hein? Comment ça, tu sais ce qu'il pense, toi? » Rosalie croqua un gros morceau dans la pomme pour se donner le temps de réfléchir. Ensuite, elle continua. « Il vient souvent au magasin. Avant que l'accident arrive, il se passait pas une journée sans qu'il vienne chercher quelque chose », exagéra la jeune brune. « Après, poursuivit Rosalie, je pense que le pauvre Freddy était gêné de voir le monde. Ça fait que c'était souvent Émile Pelletier qui venait à sa place. » La jeune marchande ne mentionna pas à Ludivine à quel point elle s'était ennuyée des moments passés à discuter avec Freddy Poirier. Ça ne regardait personne. Elle se pencha vers sa compagne et termina sa pensée. Là, il a recommencé à fréquenter notre commerce comme avant. Ça fait que j'ai eu droit à quelques confidences, mentit Rosalie pour se rendre intéressante. Par contre, sa femme... La curieuse Ludivine attendit avidement la suite. Je pense que j'ai revu Madeleine Poirier seulement une fois ou deux dans les mois qui ont suivi la noyade. Ça fait que j'ai entendu bien des affaires sur cette tragédie de Sora, de la part de Simone Laviolette, du grand-père et des voisins. Ça fait bien du trouble dans la famille, cette histoire-là. « Pourquoi tu m'as jamais raconté ça? » s'informa Ludivine en faisant la moue. Rosalie haussa les épaules en replaçant la manche courte de sa blouse rose qui était repliée. Ses cheveux bien coiffés en deux chignons de chaque côté de son visage ovale brillaient dans le soleil. Il faut dire qu'ils étaient frais lavés du matin. Un peu envieuse de la beauté de son amie, Ludivine soupira en replaçant sa jupe verte pour cacher ses mollets. Elle travaillait tous les jours au vigneau et n'aurait jamais les mains délicates de sa copine. « Au moins, pensa-t-elle, j'ai pas eu de misère à me trouver un fiancé, moi. Je peux pas trahir les secrets que les clients me confient, Ludivine, » expliqua la marchande, « mais c'est pas facile pour lui de Sora. Il vit aussi avec les conséquences du geste de Madeleine. » Ludivine ouvrit les yeux bien grands devant cette affirmation. « Je pensais pas que Freddy Poirier s'épanchait autant auprès de toi. T'es chanceuse de travailler au magasin quand même. T'entends tout ce qui se passe au village. Moi, au vigneau, je suis prise pour jaser avec les morues. » La jeune femme éclata de rire, et les deux fossettes dans ses belles joues se creusèrent aussitôt. Une idée germa dans sa tête et elle l'exposa à sa compagne. « Pourquoi tu tentes pas ta chance avec Émile Pelletier? Je te dis que c'est une belle pièce d'homme, ça. Il a les mains grandes comme les oreilles d'un éléphant », compara-t-elle en riant encore. Rosalie, qui se sentait coupable d'avoir inventé des confessions par rapport à la noyade d'Éloi, se releva en secouant le sable accroché à ses vêtements. « Je suis pas certaine que ce soit mon genre d'homme. Il est bien gêné, tu trouves pas? » Avant que l'autre ne puisse donner son avis, Rosalie jeta un coup d'œil sur sa montre, un cadeau de ses parents pour son 18e anniversaire, et elle s'empressa de renfiler ses chaussures. « Bon, c'est amusant tout ça, mon ami, mais papa m'a bien averti de revenir à 5 heures au plus tard. Il me reste à peine 10 minutes pour retourner au magasin. »« Ouais, t'as raison, il faut y aller. Mais avant, dis-moi donc, vu que tu sais tout, penses-tu que les jumelles vont se reparler un jour? » Rosalie prit un air de conspiratrice avant de chuchoter « Pas d'après Freddy, en tout cas. » Pendant que son beau-frère faisait rêver la fille du marchand général, Simone était bien plus préoccupée par la situation de son amie Géraldine. Depuis quelques jours, cette dernière envoyait son fils Gustave chez elle au petit matin afin de quêter un morceau de pain pour nourrir sa famille. Les deux premières fois, Horace et Simone avaient tendu de bonne grâce l'aliment à l'enfant. Mais quand ce matin, Gustave avait ajouté « Maman voudrait aussi un morceau de beurre et un peu de farine. » Simone avait jeté un regard inquiet vers son beau-père. Horace avait plissé son front en remettant la nourriture demandée avant de s'informer. « Ton père travaille ces jours-ci, mon bonhomme? Papa? Pas beaucoup. Il est trop malade. » Une fois la porte refermée, Simone avait explosé. Misère, comme Hervéillette est pas vaillant. Il a aucune honte à envoyer ses enfants quémander chez les voisins. Pouvez-vous croire ça, le beau-père? Un homme qui est même pas capable de nourrir sa famille? En plus, Géraldine, qui va encore avoir un petit à l'automne. J'espère bien qu'Omer va s'en aller au chantier à la première neige. Je pourrais pas les fournir comme ça toute l'année, moi. » Une fois sa vaisselle terminée, Simone habilla sa cadette en réfléchissant. Déterminée à venir à bout de cette histoire avec Géraldine, elle profita du fait qu'Horace et Philomène étaient partis sur la grave pour se diriger vers la maison de son amie, au bout du rang La Joie. La marche d'une quinzaine de minutes lui permit d'apprécier la vue sur la baie et la volée d'oiseaux marins qui accompagnaient les bateaux quittant le quai. La femme laissa marcher Béatrice plutôt que de l'asseoir dans son carrosse. L'enfant, qui aurait 2 ans dans quelques semaines, se penchait régulièrement pour ramasser un caillou, toucher une fleur sauvage ou tenter de goûter à un insecte intriguant. La promenade prit donc le double du temps habituel, mais Simone savourait ce moment tranquille, jusqu'à ce qu'elle arrive devant la maisonnette de bois de Géraldine. « Mon doux Seigneur, veux-tu bien me dire comment ils entretiennent leur demeure, eux autres? » Les murs, usés par l'air salin, avaient grisonné de manière inégale, mais cela n'avait rien d'inhabituel dans les villages côtiers, où les habitants avaient coutume de repeindre fréquemment leurs maisons. Cependant, un carreau était cassé à chacune des 2 fenêtres de la façade, et les trous ainsi formés avaient été bouchés par un morceau de carton à gauche et par une planche de bois à droite. La clôture près du champ avait basculé au sol pendant l'hiver et n'avait pas été replacée. « Je me demande ce qu'Omer peut bien faire de ses journées, hein, ma Béatrice? Hein? » Simone prit la main de sa fille pour enlever une poignée de terre qu'elle approchait de sa bouche entrouverte. « Yark, c'est sale, Béa! Yak! » Simone éclata de rire en voyant le minois plissé de sa fillette, qui ressemblait tant à son grand frère Éloi. Mais alors que cette constatation la peinait souvent, la femme s'aperçut que son cœur ne se serrait pas autant que d'habitude à cette pensée. Au contraire, elle se sentit sereine en voyant les mèches brunes qui cachaient le front de Béatrice. Dans un rare moment de démonstration d'affection, Simone souleva sa fille pour lui baiser le cou, tout humide. « Maman, je t'aime, ma fille, » chuchota la femme en la redéposant sur ses jambes instables. « T'aime, » répéta Béatrice, peu habituée à ses gestes de tendresse. Simone reporta ses yeux sur la maison de Géraldine et soupira profondément en s'engageant dans l'allée. La grosse cuve pour la lessive était remplie d'eau sur le côté de la maison, mais personne ne s'affairait à faire le lavage. La femme souffla fortement, choquée à l'idée qu'un des 2 plus jeunes de son amie pourrait se retrouver seul près de ce danger potentiel. « Il va falloir qu'elle m'explique ça », ragea Simone en sautant la 2e marche brisée de l'escalier. Elle tendit les bras pour prendre Béatrice et cogna fortement sur la porte entrouverte. Se tournant vers le fleuve, Simone attendit qu'on vienne lui répondre. Mal à l'aise, elle réalisa qu'elle n'avait pas mis les pieds là depuis la mort de son fils. Avant le décès d'Éloi, Madeleine et elle faisaient de longues promenades quotidiennes qui les menaient d'un bout à l'autre du village. Par la suite, les jumelles craignaient tant de tomber l'une sur l'autre qu'elles évitaient de trop s'éloigner de leur demeure ou de la plage. « Oui !» Le cri sortit Simone de sa rêverie. Sa fille avait glissé son pouce dans sa bouche et tenait le col de la blouse de sa mère dans son petit poing. « Géraldine, c'est moi !» Les pas de la grande blonde se firent entendre sur le plancher avant que la femme n'ouvre bien grand la porte. Les cheveux cachés par un foulard blanc à la propreté douteuse, Géraldine haussa les sourcils sans sourire. « Tiens, la visite rare, ça doit bien faire 1 an que t'as pas mis les pieds dans le coin. Qu'est-ce qui t'amène, mon ami? Je te ferai bien rentrer, mais comme tu dois t'en douter, mon mari est malade et se repose. » En disant ces quelques mots d'un ton ironique, Géraldine sortit de la maison, suivie par son petit Martial encore aux couches à 3 ans. Les 2 enfants se rapprochèrent l'un et l'autre en s'observant. Leur mère les descendit au bas de l'escalier avant de s'asseoir dans les marches. Simone avait toujours entretenu une belle relation avec Géraldine depuis qu'elles étaient jeunes. À l'école du village, elle s'amusait souvent à faire damner la maîtresse d'école, pendant que Madeleine restait bien sage. Quand Carmel, la mère des jumelles, rencontrait l'enseignante et que celle-ci lui faisait part de ses doléances concernant Simone, la femme remerciait le ciel parce qu'au moins son autre fille était plus docile. Puis elle sermonnait Simone en lui faisant promettre de se tenir loin de Géraldine. Une injonction que la jumelle ne respectait jamais, trouvant bien trop amusant les coups pendables qu'elles imaginaient toutes les deux. « Alors, tu m'as pas répondu? Dis-moi pas que tu passais dans le coin par hasard, je te croirais pas. » Géraldine gratta une saleté sur le bas de sa robe chemisier en jetant un regard inquisiteur sur sa visiteuse. Cette dernière était bien embêtée de mentionner les demandes sans cesse grandissantes que lui faisait Gustave chaque semaine, mais elle prit son courage à deux mains pour dire « Écoute, mon ami, je voulais m'assurer que tu allais bien. Disons que je m'inquiète pour vous autres. » « Nous autres? Avec Omer qui va pas en mer cet été, comment tu t'arranges? » Aussitôt, le visage au front large de Géraldine se ferma. Elle croisa ses avant-bras sur le devant de sa poitrine et son ventre proéminent sembla prendre toute sa place. « Il n'a pas trouvé de capitaine pour le prendre, » énonça-t-elle sans répondre à la question. « Quoi? Surprise du ton adopté par sa camarade, Simone laissa ses yeux valser sur la mer calme. Elle pouvait distinguer quelques barges au loin, des pêcheurs qui avaient choisi de ne pas sortir de la baie. Mais en repensant aux demandes de Gustave, elle décida d'être franche, malgré le risque de froisser Géraldine. « C'est juste que ton gars m'a réclamé de la farine et du beurre ce matin. » « Ah! » Géraldine fit comme si elle l'ignorait, mais Simone n'était pas dupe. Elle allait poursuivre sa recherche d'informations concernant la situation familiale de son amie quand la porte de la maison s'ouvrit pour laisser passer Omer, torse nu. La visiteuse retint une grimace de dégoût devant l'allure négligée de l'homme qui n'était pas très beau d'avance. Mais au moins, lorsqu'il était jeune, Omer Veillette faisait rire tous les élèves de l'école avec ses pitreries. Il frotta sa barbe de quelques jours, puis ses cheveux gras. Derrière lui, les jumeaux de la famille sortirent l'un après l'autre. Gustave sourit franchement à Simone, qu'il appréciait beaucoup depuis qu'elle le nourrissait. François ne fit que l'observer en silence, comme d'habitude. Félix Edmond, qui copiait allègrement les idioties de son frère Gustave, était en pénitence dans sa chambre depuis la veille au soir, alors qu'il s'était amusé à tirer tous les vêtements accrochés sur la corde à linge pour les laisser au sol. À tout juste 5 ans, Félix Edmond n'avait pas compris que la suggestion de Gustave le mènerait tout droit dans sa chambre. « Tiens, tiens, si c'est pas Simone, comment tu vas? » s'informa Omer sans éprouver de gêne à se promener dehors à demi-vêtu. « Ça va? Toi? Oh, un peu malade. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais bien aimé ça, avoir une meilleure santé. Ça a bien l'air que c'était pas dans les plans du bon Dieu. » Simone pencha la tête vers ses souliers de toile pour éviter qu'un ou l'autre membre du couple ne lise dans ses pensées. Comme tout le monde au village de Lens-à-la-Joie, elle savait que l'alcool était le problème médical d'Omer. Avant la naissance de ses jumeaux, le couple Veillette se plaisait à prendre du bon temps ensemble. Tom avait d'ailleurs suggéré à quelques reprises à sa femme de se tenir loin de Géraldine. Il n'aimait pas l'influence que cette dernière pourrait avoir sur la mère de ses enfants. Par contre, même si Simone trouvait son amie bien comique, elle savait se montrer beaucoup plus raisonnable qu'elle en société. Un petit verre de vin de cerise dans le temps des fêtes ou pour clore la saison de la pêche, mais sans plus. Les amis s'étaient rapprochés au moment où leurs enfants étaient venus au monde. Simone avait constaté avec joie que Géraldine reprenait le droit chemin et menait sa famille d'une main de maître. Toutefois, depuis 4 ans, Omer avait continué sa vie de débauche en laissant à son épouse le soin de compenser pour ses pertes de revenus. Simone, mal à l'aise de parler en présence de l'homme, se releva en époustant l'arrière de sa jupe. « Bon, on va y aller, nous autres, Béa? »« T'es certaine? » demanda Géraldine en ignorant son époux qui se berçait au bout du balcon, le regard errant au loin. « Oui, oui, il faut que j'aille rejoindre Horace à la grave. » Comme si ce mot avait réveillé Omer, il sauta sur ses pieds nus et s'avança vers les deux femmes. « Penses-tu que je pourrais vous donner un coup de main? Un petit peu d'argent serait pas de refus, hein, Géraldine? » La grande blonde étira le bas de son dos en se levant péniblement. Elle souffla avec dépit entre ses lèvres, connaissant déjà la réponse que fournirait Simone et qui fusa rapidement. « C'est bien de valeur, Homer, mais disons qu'on préfère s'occuper de nos vigneaux sans aide. Je comprends pas. Ton beau-frère a bien engagé le jeune pelletier. Tom pourrait faire pareil avec moi. Parle-lui en don. » Simone grommela une réponse inaudible avant de prendre son bébé dans ses bras. C'était rare qu'elle n'affrontât pas les gens, mais la vie misérable de son amie la confondait. Comme si cette indigence lui renvoyait au visage la chance qu'elle avait eue d'hériter de son père et de compter sur un mari vaillant. Sachant que Géraldine pouvait deviner ses pensées à propos de son époux, Simone s'éclipsa, sans préciser ses inquiétudes concernant les demandes de nourriture de Gustave. « Il faut que je vous laisse », annonça-t-elle, déjà rendue au bout de l'allée couverte de mauvaises herbes. « Géraldine, viens me voir quand tu veux avec tes petits, ça me fera plaisir. » Mais en s'éloignant vers le chemin, Simone ressentit un sentiment de culpabilité, en réalisant que ses paroles étaient fausses. Si elle avait espéré que Géraldine puisse combler le vide laissé par sa sœur jumelle, elle venait d'avoir la preuve que jamais son amie ne pourrait la remplacer. « Je peux pas respecter une mère qui prend pas soin de ses petits », constatait-elle tristement. Sans réfléchir, elle se retourna pour jeter un dernier coup d'œil à la maisonnette et fut bien embarrassée de constater que Géraldine n'avait pas bougé du balcon et qu'elle la fixait sombrement. Simone souleva la main pour la saluer et accéléra le pas. « Ça fait drôle de penser ça, mais je me trouve bien chanceuse d'avoir la vie que j'ai. »